Radio Okapi. Okapi. Au moins 7000 Burundais demandent l'asile actuellement dans le sud Kivu. Révélation du ACR Région Est au chef de la MONUSCO en visite sur place. Entre-temps, des milliers d'autres réfugiés se retrouveraient dans la forêt dépourvus de tout, voire malades. Tension persistante à Niamilima au nord Kivu. Le gouverneur de province appelle au calme les communautés Hutu et Nande en conflit. Hier, les activités socio-économiques locales étaient paralysées. Julien Paluku annonce une descente sur place. Affaire fausse commune de Maluku à Kinshasa. La motion de défiance contre Boshab rejetée hier par la majorité parlementaire. Les députés signataires de la dite motion crient au fanatisme. Sachez que l'opposition s'est retirée avant la fin de la plénière en signe de protestation. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisi. Ce journal part du Sud Kivu. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vient de dépasser le seuil de 7000 Burundais demandeurs d'asile dans les territoires d'Uvira et de Fizi. Le chef du bureau de HCR Région Est l'a fait savoir hier à Uvira auprès du chef de la MONUSCO en visite sur place. Dans un échange avec ses Burundais au centre de transit du HCR à Kavimvira, Martin Kobler s'est dit très préoccupé par cet afflux, ainsi que des conditions encore précaires dans lesquelles nombreux d'entre eux vivent éparpillés dans la plaine de la Ruzizi et dans le territoire de Fizi. Fiston Ngoma nous en dit plus.
Ils sont 407 Burundais demandeurs d'asile hébergés au centre de transit du HCR à Kavimvira. Certains ont dit avoir quitté leur pays depuis quelques jours, fuyant des attaques ciblées et l'insécurité. Tout en louant le travail du HCR et de ses partenaires, ils ont reconnu vivre dans des conditions difficiles. Ils ont plaidé en faveur de plusieurs milliers parmi eux qui sont restés dans la forêt et dorment à la belle étoile, sans nourriture et souffrent de nombreuses maladies. Leur souhait est d'être rassemblés sur un même site. Le chef de bureau du HCR région de l'Est de la RDC a souligné que son organisation compte rapidement mettre en place un système d'enregistrement biométrique de ces Burundais avant de les transférer vers un site de regroupement. Olivier Fafa Atidja.
Actuellement, ils sont 7000 à peu près. Ceux qui sont dans le sens, ceux qui ont été identifiés comme étant des personnes vulnérables et qui se trouvaient dans les familles le long de la frontière, ont été transférés ici immédiatement pour qu'on survienne à leurs besoins en matière d'abri, d'eau, de santé et puis d'alimentation. En attendant qu'on les transfère sur un site, ou dans un lieu que le gouvernement congolais nous aura donné.
Pour la MONUSCO, Martin Kobler a promis d'apporter 100% d'efforts pour communiquer ses préoccupations aussi bien aux autres humanitaires qu'au gouvernement congolais. Selon lui, la question de sécurité liée à la présence des FNL burundais et des FDLR reste un souci majeur pour la stabilité de la frontière de la RDC avec ses voisins. D'Uvira, Fiston Ngoma Mayabala, Radio Kapi.
Sur place au Burundi, deux manifestants qui protestaient contre la candidature du président burundais à un troisième mandat ont été tués par balle hier à Bujumbura lors des affrontements avec la police. Information livrée par un défenseur des droits de l'homme cité par l'AFP. La même source signale aussi beaucoup de blessés. Ces deux nouveaux morts portent à 11 le nombre des personnes tuées durant les violences depuis le début des manifestations contre un troisième mandat de Pierre Nkurunziza débuté le 26 avril dernier. Rendons-nous au nord Kivu. Le gouverneur de province lance un appel au calme aux communautés Hutu et Nande vivant dans la zone de Niamilima. Cet appel de Julien Paluku fait suite à une tension persistante entre ces communautés qui manifestaient encore hier, causant la paralysie des activités socio-économiques à Niamilima. Le bilan fait état de 4 blessés par machette. Pour Julien Paluku, il n'est pas question que la province du nord Kivu revive les conflits ethniques comme par le passé. Julien Paluku Kaungia au téléphone de Gisèle Cage.
Le message que je lance à l'ensemble de la population de Niamilima, toute communauté confondue, c'est un message de calme, c'est un message d'apaisement. Certainement qu'il y a des tireurs de ficelles ça et là qui risquent d'opposer inutilement les communautés dans le territoire de Rutshuru, dans le groupement Binza, alors que personnellement je sais que les communautés vivent dans cette partie depuis longtemps sans se faire la guerre, sans se tirer dessus. Voilà pourquoi je demande à cette population de revoir dans le passé comment elles ont coexisté ensemble et de s'interroger sur ceux qui sont en train de les instrumentaliser aujourd'hui, de les éloigner près d'eux. Je crois que c'est cela qui va ramener la paix dans cette partie, que les gens soient calmes. Moi-même, avec le président de l'Assemblée provinciale et d'autres notables, nous allons arriver à Niamey-Lima dans les jours qui viennent pour que nous parlions à la population de cette partie, pour qu'on nous dise exactement qu'est-ce qui alimente toute cette tension qui risque de nous ramener dans des vieilles histoires que nous avons regrettées dans la province du Nord-Kivu.
Pendant ce temps, 14 rebelles ZADF ont été tués dimanche et 5 armes récupérées lors des combats entre FARDC et ses rebelles ougandais à Parikingi et Kokola, toujours au Nord Kivu. Selon le porte-parole de l'armée congolaise à Beni, au cours de ces accrochages, 4 militaires FARDC ont été également tués. Pour l'instant, l'armée exerce une pression sur les ZADF dans la zone de Bango, précise le major Victor Massandé. Restons au Nord Kivu pour signaler qu'un hélicoptère du commandant des forces de la MONUSCO a essuyé des tirs des hommes armés non identifiés alors qu'ils étaient en patrouille. Cela s'est passé hier vers 11h locales dans la zone d'Oicha, en territoire de Beni. Cette attaque n'a fait aucune victime, indiquent des sources de la MONUSCO à Beni. Toutefois, on pouvait voir les impacts visibles des balles sur l'appareil. Le chef de la mission onusienne a condamné fermement cette attaque qu'il a qualifiée d'inacceptable et d'intolérable. Pour Martin Kobler, les attaquants seront pourchassés avec tous les efforts et sans tolérance dans les limites des règles d'engagement. Je vous le disais en titre, la majorité parlementaire a rejeté hier lundi la motion de défiance contre le vice-premier ministre en charge de l'intérieur. C'est au sujet de sa responsabilité dans l'affaire concernant la fosse commune de Maluku ici à Kinshasa. Conséquence, pas de débat autour de cette motion. Évariste Bouchab garde son siège au sein du gouvernement. Entre-temps, la cinquantaine des députés nationaux signataires de la motion ne décolèrent pas. Ils crient au fanatisme au sein de la majorité présidentielle. Mimi Ngumba Moulongo, reportage.
Elle était particulièrement mouvementée, la plénière de ce lundi, dans une salle de congrès archi-comble. Juste après la lecture de la motion contre Évariste Bouchab par les représentants des signataires, le député José Makila, une motion incidentielle va tomber. Celle-ci, initiée par le député de la majorité Shadary Ramazani, remettait en cause l'opportunité de la motion de défiance. Gaston Moussemena, qui l'a aussi soutenu, a affirmé que la question funéraire relève de la compétence de l'autorité provinciale.
Cette motion de défiance mal dirigée et contre même les prescrits de la Constitution. Cette question, conformément à notre loi obsolète, relevait de l'hôtel de ville. En aucun cas, quelqu'un qui n'a aucune responsabilité ne pouvait en répondre jusqu'à être sanctionné.
À l'opposition, Délice Sanga notamment a fustigé un militantisme aveugle de la majorité parlementaire.
La majorité vient de signer la fin de la démocratie dans ce pays parce que nous ne pouvons plus compter sur les institutions. Nous ne pouvons pas être la caution passive à la violation des droits de l'homme et à la violation de la Constitution.
Conclusion, la motion de défiance n'a plus survécu et Évariste Bouchab reste vice-premier chargé de l'intérieur. Il faut toutefois signaler que l'opposition s'est retirée avant la fin de la plénière en signe de protestation de leur motion déboutée.
Avant de clore ce journal, notez qu'un étudiant a été blessé à la tête et plusieurs murs des maisons en construction écroulés. Tel est le bilan de l'accrochage hier entre les étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kinshasa et les habitants du quartier Kindiboula, un quartier riverain de l'ISTEM, en face des cliniques universitaires. Les étudiants s'en sont pris aux maisons en construction sur le terrain de l'ISTEM spolié, fait à l'origine de la grève déclenchée depuis 3 jours par le personnel de cet institut supérieur, Michel Kifindangoy.
Tout a commencé mercredi dernier avec l'Assemblée Générale des syndicats du personnel scientifique, administratif et technique de l'ISTEM. Ces derniers ont décidé d'observer un mouvement de grève pendant 3 jours à dater de ce lundi pour protester contre la spoliation du site de l'ISTEM par des constructions anarchiques. Ils ont à cet effet déposé le préavis de la grève au ministre de l'ESU avec copie pour information au ministre sectoriel concerné. En arrivant au cours hier lundi, les étudiants ont appris par un communiquer la nouvelle de la grève qui les a aussitôt révoltés. Ils se sont donc attaqués aux habitations en construction au quartier Kindiboula. Plusieurs murs ont été écroulés avant qu'une force défensive des habitants ne leur soit opposée. Un étudiant a été blessé à la tête et la police est intervenue en tirant en l'air pour disperser les manifestants. Il faut noter que le quartier Kindiboula, victime d'attaque, est construit sur une pente sablonneuse en face de l'université de Kinshasa et à côté de l'ISTEM, sur la route de Kimwenza. Le manque de canalisation d'eau expose sensiblement l'Unikin et l'Istem à des multiples têtes d'érosion.
Ainsi prend fin ce journal mis en onde par Mimi Kindou. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon suite de programme sur Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.